Vous écoutez Radio Capi, une voix pour tous. Maintenant, à présent, nous allons aborder un autre sujet qui va certainement vous intéresser. On va parler de cette maladie dénommée variole des singes, une zoonose. Alors, elle se manifeste beaucoup plus dans les zones forestières. Pour en savoir plus, nous recevons à présent Dr Maurice Pango-Chaco. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste.
Oui.
Alors nous parlons de la variole des singes.
Okay.
Qu'est-ce qu'on entend par variole des singes? C'est quoi cette maladie?
La variole des singes, qu'on appelle encore variole simienne, qu'on appelle encore monkeypox.
Monkeypox.
Okay.
Ok.
C'est une maladie émergente, zoonose caractérisée par la fièvre, et une éruption vésiculeuse et pustuleuse causée par un virus qu'on appelle l'orthopoxivirus. Donc, ces éruptions-là sont caractéristiques. Ça peut occuper tout le corps, mais on les retrouve plus au niveau des paumes de main, des plantes des pieds et à la face.
C'est quoi, des taches?
Oui,
des boutons.
Oui, qu'on appelle des pustules, qui sont inflammatoires ou bien non inflammatoires comme les vésicules. Là-dedans, on peut trouver des liquides. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas de liquides. Ils sont parsemés sur tout le corps. Et la
particulièrement au niveau
des paumes de main,
oui.
La face et puis au niveau des plantes des pieds.
Ok.
Ouais.
Et qu'est-ce qui est à la base de cette maladie?
Bon,
la source, je veux dire.
La source de cette maladie. Normalement, la cause des problèmes dites n'est pas connue, mais il y a des réservoirs comme le singe, comme le rat, des rats, comme le pangolais aussi ou les porcs-épics sont des animaux qui sont réservoirs. Alors, dès que cette maladie se manifeste au niveau de ces animaux-là, que ces animaux sont en contact avec les hommes, directement la maladie se manifeste et on le remarque au niveau de la population.
Et comment ça se transmet à l'homme? C'est quand l'homme mange ces animaux ou bien
il y a d'abord
il peut les attraper par d'autres moyens.
Il y a le contact permanent, une transmission animal-homme. Donc, on peut avoir un singe à la maison. Il y a déjà cette maladie-là, et quand on joue avec un contact permanent, ou bien quand on déplace l'animal atteint, sans le savoir, c'est aussi un contact. Quand les chasseurs ou les gens qui se promènent dans la brousse rencontrent un animal qui est mort ou qui est encore vivant, et qu'on l'amène à la maison, on le dépèce et puis
on va le consommer.
Oui. Et cet animal aussi avec les morsures, ça c'est la transmission animal-homme. Il y a aussi la transmission interhumaine. Donc, être en contact immédiat avec les cas, donc quelqu'un dormir ensemble, quelqu'un va dormir avec celui qui souffre de cette maladie-là sur le même lit, à contact avec les liquides biologiques ou les sécrétions, donc le sueur, le sang,
le sperme,
tous ces liquides-là peuvent faire que la personne qui est à côté de celui qui est malade soit atteint.
Voilà, c'est comme ça que ça se transmet cette maladie appelée monkeypox ou variole de singe.
Okay.
Vous avez dit là, les manifestations, c'est seulement des boutons qui apparaissent sur la paume de main, sur le visage et sur la plante des pieds.
Mais il y a particulièrement des symptômes.
Quels sont ces symptômes?
Ces symptômes-là, vous allez voir que chez le singe, par exemple, il y a ces éruptions-là. Au niveau des paumes des mains, au niveau des plantes des pieds, et au niveau même de la face, ou tout le corps. Bon, et ce sont des vésicules croûteuses qui peuvent laisser des traces, qui peuvent laisser donc des cicatrices. Donc vous allez voir un animal qui a, n'a plus de poils, mais qui a des cicatrices, des plaies, des petites plaies, parsemées par-ci par-là. Donc cet animal a déjà souffert de la variole de singe. Bon, chez le chien et chez les rongeurs plutôt, ou bien on appelle aussi les chiens de prairie, certains rongeurs comme mammouth. Là, vous allez voir que l'animal devient très fatigué. Pour ceux qui les élèvent, qui les domestiquent, l'animal devient très fatigué et l'animal n'a plus d'appétit, ne mange plus. Il y a aussi des gonflements des ganglions on appelle ça les adénopathies, qui se manifestent. Et puis, les yeux sont inflammés. Il y a l'inflammation oculaire, même au niveau des narines. Il y a ce qu'on appelle l'inflammation oculaire et nasale. Et chez l'homme, vous allez constater qu'il y a une augmentation de la fièvre, au-delà de 38 degrés Celsius. Et il y a ces signes caractéristiques aussi qu'on appelle les vésicules, les apparitions, les vésicules et les pustules, au niveau des paumes des mains, au niveau des pieds. Il y a aussi des adénites, des inflammations, des ganglions. Mmh. En plus des adénites, ces inflammations, il y a des douleurs au niveau de la gorge. La personne a mal à la gorge, il a même mal à avaler la nourriture. Mmh. Il y a aussi des ulcérations buccales, des plaies.
Des plaies au niveau de la bouche.
Au niveau de la bouche.
Oui.
Et des rougeurs au niveau des yeux qui vont jusqu'à crever les yeux chez les enfants. Donc, comme conséquence.
Ah bon, les enfants peuvent devenir aveugles.
Aveugles, oui, à cause de cette maladie-là. Mmh. Il y a aussi des vomissements et la toux et même la diarrhée avec le sel de plus de 3 fois par jour. Donc, dans les 24 heures, vous avez pris vous allez 3 fois dans les selles.
Aux toilettes,
oui. Toilettes, oui. Mmh. Alors, cette maladie, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, journalièrement, semestriellement, annuellement même, quand on constate qu'il y a la maladie, on doit déclarer au niveau des secteurs d'abord, au niveau des territoires, au niveau des provinces, ou même sur le plan national. Donc, on doit déclarer pour éviter que cette maladie se diffuse partout dans le...
Donc, c'est une maladie transmissible qui peut rapidement se transmettre.
Se transmettre, oui. D'où on doit renforcer la surveillance pour éviter cette... contamination rapide et cette diffusion rapide de la maladie.
Bien, le sujet vous intéresse, vous voulez participer, eh bien, envoyez-nous des notes vocales au 099 706 9941. 099 706 9941. Mmh.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Bien, comment lutter contre cette maladie dénommée variole des singes ou monkeypox? On en parle aujourd'hui avec Dr Maurice Pongo, Chaco, épidémiologiste. Docteur, quelles sont les parties du pays? On dit que c'est une maladie qui se manifeste beaucoup plus dans les zones forestières. Quelles sont les parties du pays qui sont plus touchées par cette épidémie?
Effectivement, vous venez de le dire, dans les zones forestières, par exemple à l'équateur, dans les territoires de Bongandanga, par exemple, il y a eu une manifestation de cette maladie-là. Dans les Sankuru, territoire de la province de Sankuru, cette maladie a fait son apparition. Dans le Maindombe, il y a aussi des cas. Dans la Chopo, ou encore, dans le Maniema aussi, au niveau de Kibombo, il y a eu des manifestations de cette maladie-là.
Donc c'est plusieurs parties du pays qui sont touchées par cette maladie là.
Ok.
Et comment se fait comment se fait le système de surveillance?
Le système de surveillance se fait comme je l'ai dit là à des niveaux périphériques et niveau central. Donc l'information doit partir de la base et doit remonter. Dès qu'on voit cette maladie là, on doit la déclarer pour que les experts descendent sur le terrain, constater, prélever les échantillons, envoyer les échantillons au niveau des laboratoires pour la confirmation des cas. Parce qu'il peut y avoir qu'il y ait des cas comme ça, mais ce n'est pas confirmé. Ce sont les suspects, des cas suspects. Donc, on doit les confirmer. Mmh. Et après, il faut directement passer à la riposte. Donc, normalement, cette maladie n'a pas de traitement étiologique.
Il n'y a pas de traitement.
Il n'y a pas de traitement éthologique. Mais on traite symptomatologiquement cette maladie, c'est-à-dire pour éviter la surinfection. Donc le fait que la personne est malade, avec beaucoup de signes qu'on a cités précédemment là, et le corps a une surinfection et peut amener une personne jusqu'à un état déplorable et même à la mort.
C'est une maladie qui peut tuer.
Qui peut tuer, mais souvent, ça se guérit de soi.
Ok, donc le traitement s'est fait en fonction des signes et des symptômes.
Ok, donc là, il faut donner une bonne dose d'antibiotiques. L'antibiothérapie, oui, pour arrêter cette maladie.
Et quelle est la période d'incubation de la maladie?
La période va de 7 à 21 jours. Donc, dès que le virus entre, hein, à partir du 7e jour déjà, la personne peut commencer à manifester les signes de la maladie. Ok. Alors, vous avez posé une question, vous avez commencé avec cette question-là, pour lutter maintenant contre cette maladie-là.
Oui.
Pour lutter contre cette maladie-là, il y a des mesures qu'on doit prendre le plus rapidement possible.
Lesquelles?
Bon, il y a les mesures préventives. Dans ces mesures-là, d'abord chez les animaux, il faut faire en sorte que les experts descendent sur le terrain, attrapent, face à ce que les animaux soient attrapés, le singe par exemple dans ces zones-là, et d'autres animaux qui sont des réservoirs, pour essayer de prélever les échantillons, les envoyer au laboratoire pour la confirmation de la maladie. Et au niveau de la ville, de la cité, où les gens élèvent les animaux, ou au niveau des zoos, des parcs animaliers, il faut faire assez que ces animaux-là ne soient pas en contact avec les hommes. Il faut les limiter carrément.
Bon. C'est beaucoup plus les singes.
Il y a le singe, j'ai bien dit les singes, il y a des rats aussi, comme le rat de Gambie, qui est porteur aussi du virus. Donc les gens qui en consomment dans les villages, qu'on appelle les botomba chez nous là-bas, toutes sortes de ces rats-là, ce sont des rats qui portent ce virus-là. Et lors de la période donc de l'apparition de la maladie, les gens qui en consomment...
Ça s'appelle les botomba. C'est dans quel village hein?
Chez les Ngala ou même chez les Tétera, on l'appelle les botomba. Chez les autres, on l'appelle des botomba. Toutes sortes de ces rats-là, ce sont des rats
que les gens consomment.
Oui, que les gens consomment.
Ah bon?
Oui, qui portent le virus. Et même les porcs épis.
Les porcs épis, oui.
Ouais. Ce sont des rongeurs que les gens consomment. Et même le pangolin. Le pangolin, c'est un animal aussi qui est long, qui a beaucoup d'écailles, qui s'enroule, que les gens aiment aussi. Ce sont des porteurs de virus. Donc, en les consommant, on peut facilement manifester la maladie. Ça, c'est chez les animaux. Alors, il y a, chez les humains, il faut faire pratiquement ce qu'on appelle la mobilisation sociale. La mobilisation sociale, il y a des mesures préventives et la prise en charge.
Oui.
Dans la mesure préventive, là, pour éviter la contamination, il faut éviter tout contact avec le singe, avec les rongeurs, et éviter aussi la manipulation et la consommation des animaux présentant les lésions sur la peau. Donc les gens doivent éviter de les consommer. Et ne pas ramasser les animaux trouvés morts.
Hein, dans la forêt ou dans la brousse.
On ne connaît pas la cause, de la mort même. Ouais. On le retrouve, on trouve un butin, mais c'est un butin qui peut créer la mort, qui peut créer la contamination de plusieurs personnes.
Mais certains pensent qu'on va le chauffer à 100 degrés Celsius, on va le préparer et puis...
Mais on va le manipuler, malgré la préparation. On commence
par la manipulation.
Et c'est là où passe le virus. Alors, il y a aussi, j'ai bien dit, éviter la manipulation, la préparation des aliments malades et trouver morts sans raison apparente. Il faut donc éviter cela. Et dans les centres de santé, quand on prend les malades en charge, là nous sommes arrivés maintenant dans la prise en charge, dans les cliniques, même chez nous, chez les vétérinaires, nous avons aussi des cliniques vétérinaires. On peut amener des singes qui souffrent de cette maladie-là, et il peut y avoir que le infirmier ou le médecin même, vétérinaire qui touche à cet animal-là, soit contaminé s'il ne se protège pas. Donc il doit se protéger. Donc on appelle ça des contaminations nosocomiales. Donc ça peut passer de l'animal à l'homme, de l'homme aussi à un autre homme dans le même centre. Là.
Oui.
Donc il faut mettre quelqu'un qui a déjà souffert de cette maladie-là, qui a déjà développé l'immunité contre cette maladie-là pour garder celui qui souffre. Ok, ça c'est une mesure très importante.
Préventive. Hein.
Ouais. Et il faut aussi éviter tout contact avec les vomissements. Avec les selles, avec les urines du malade. C'était un autre moyen de prévention. Il faut éviter les contacts directs ou sexuels avec les malades.
Avec la personne qui est touchée.
Les personnes touchées. Il faut éviter ces contacts-là, sexuels, même corporels, il faut éviter. Il faut éviter tout déplacement des malades hors du centre d'isolement. Donc il faut commencer par isoler les malades, et quand les malades sont isolés, dans les centres d'isolement, il faut surveiller leur déplacement. Donc, le déplacement de ces malades peut faire que la maladie quitte le centre pour aller et contaminer.
Il y a un internaute qui revient sur les symptômes, c'est Shadrach de Colosi.
Oui.
Quels sont les symptômes de cette maladie dénommée variole de singe ou monkeypox?
Oui.
Vous avez dit tout à l'heure, c'est des apparitions des boutons.
Oui, au niveau des
paumes de main,
au niveau des plantes
du visage.
Et du visage. Oui. Et au dos, par exemple, au niveau des troncs, hein, quand on enlève du ventre, on peut en trouver. Mais le signe caractéristique, ce sont des boutons au niveau des paumes de main, au niveau des plantes des pieds et au niveau de la face.
Et vous avez parlé de la fièvre qui ne baisse pas.
La fièvre aussi qui augmente, au-delà de 38 degrés Celsius. Il y a aussi les ganglions qu'on trouve au niveau des aisselles, hein, au niveau de la haine, au niveau entre les jambes ici, les ganglions gonflés, les adénites, hein, qu'on peut trouver.
On appelle les bibons, c'est ça?
Non, pas les bibons. Le gonflement
des
ganglions.
Ok.
Ce sont des organes qui sont des signalateurs, quoi, que Dieu a mis dans le corps de l'homme, qui signalent, lorsqu'il y a une infection grave, ces ganglions-là gonflent. D'ailleurs, quand vous étiez jeune, peut-être vous aviez une plaie au niveau des pieds, et que le ganglion ici, au niveau de la haine, était gonflé, ou même au niveau des doigts. Donc, il y a aussi la rougeur. Vous allez voir, la personne a des plaies partout au niveau de la bouche et des yeux rouges, c'est aussi un signe des yeux rouges,
des yeux rouges,
et ensuite il y a aussi la toux, parce qu'il a un problème du mal de gorge, il y a des vomissements, il y a la diarrhée qui peut s'en suivre aussi, et chez les enfants souvent, comme des cas que j'avais trouvé à Bongandanga, des yeux crevés.
Ah, vous étiez descendu sur terrain
jusqu'à Bongandanga, au moins en 2021. Il y avait Et en 2021, je suis allé là-bas même prélever les échantillons, attraper même les animaux, et je les ai amenés jusqu'à Kinshasa ici. Malheureusement, on avait eu quelques problèmes.
Il y a eu combien
de cas?
Il y avait beaucoup de cas à Bongandanga.
Il y avait beaucoup de cas. Il y avait beaucoup de cas. J'avais trouvé un village, que j'ai oublié le nom là, où il y avait tous les enfants avec des papilles et des vésicules au niveau de la peau. Au niveau des paumes des mains, au niveau des plantes des
pieds. Et des plaies dans la bouche.
Des plaies de la bouche.
Il vomissait à tout moment.
Il vomissait aussi. Diarrhées. Il y avait des interventions, il y avait des cris. Bon, la suite, je ne connais pas. Ça, c'est au niveau du ministère de la Santé. C'est
et là comment était fait organiser la riposte?
La riposte était organisée localement, au niveau de la province de Mongala. Donc, on isolait les malades et on les soignait avec des antibiotiques et sur place, en attendant l'intervention sur le plan national. Mais quand je suis arrivé, je n'ai pas suivi cet aspect-là d'intervention sur le plan national. Je suis allé dans d'autres projets et je n'ai pas pu maîtriser ces interventions-là, ces ripostes-là au niveau de la santé.
Est-ce qu'il y a eu des enfants qui étaient devenus aveugles? Parce que vous avez dit que ça peut rendre les enfants aveugles.
Oui, j'ai laissé des enfants avec. Et beaucoup de mortalité aussi, la maladie s'est compliquée avec la rougeole.
Ok.
Ça s'est compliqué avec la rougeole et ça entraînait vraiment les enfants le plus rapidement possible à la mort.
Et la mort peut intervenir après combien de temps? C'est quand il n'y a pas une bonne prise en charge.
Quand il n'y a pas une bonne prise en charge. Et puis, il y a aussi un problème de superstition. Les villageois, au lieu d'amener le malade à l'hôpital, ils les amenaient chez
les guérisseurs,
qui utilisaient des feuillages broyés et les lavaient avec ces eaux-là, et qui ne donnaient pas de résultats, et ça finissait par la mort. On m'a même montré plusieurs tombes des enfants morts de cela.
Oh là là. Après avoir été chez les guérisseurs.
Chez les guérisseurs,
traditionnels, traditionnel, ça n'a pas marché.
Les médecins traditionnels.
Oui. Donc, vous avez dit le traitement approprié, c'est on traite par rapport aux symptômes.
Oui.
Avec les antibiotiques.
Avec les antibiotiques, à forte dose. Là, ça dépend du médecin qui fait donc qui consulte le malade et qui décide de l'antibiotique, donc la dose même administrée au malade.
Bien, nous parlons de la maladie monkeypox, variole de singe, qui est une zoonose. Comment lutter contre cela? Vous étiez en train d'énumérer les différents moyens de lutter contre la maladie. Quels sont les autres moyens, docteur?
Oui, un autre moyen, c'est la pratique donc rigoureuse de mesures barrières, donc les mesures d'hygiène élémentaire, donc notamment le lavage des mains et ceux qui interviennent portent des épis, donc les équipements de protection individuelle. Mm. Ouais. Donc ne pas manipuler le malade avec les mains libres, il faut porter des gants. Il faut même de mettre même des masques pour éviter cette contamination-là. Là, c'est vraiment au niveau des centres de la prise en charge des malades. C'est cela. Mais pour les voyageurs aussi, ceux qui arrivent dans des zones où il y a cette maladie, il faut
faire attention.
Attention, leur avertir qu'il y a une flambée de la variole des singes ici et qu'ils doivent faire attention avec des contacts et puis de manipulation des animaux.
Okay. Généralement, c'est en quelle période qu'on a des flambées? Par exemple, actuellement, est-ce qu'il y a des flambées ou pas?
Bon, pour notre cas en RDC, c'est un événement endémique. On ne sait plus déterminer quand est-ce que ça apparaît. Hein? Quand vous, au mois de janvier, vous avez des cas. Quand vous allez à Bongandanga, c'était au mois de janvier. Mmh. Hein? Au mois de janvier, février, qu'il y a eu des cas. J'arrive à Kinshasa, au mois de juin, juillet, il y a d'autres cas, par exemple à Kindu. Et les gens vont à Kindu pour descendre à Kindu pour voir ce cas-là. Et après, on attend encore qu'il y a Chopo. Donc, il y a plus. C'est vraiment endémique. Ça n'a plus de période précise. Ça apparaît donc d'une zone à l'autre sans précision.
D'accord. Vous avez des questions, vous voulez intervenir dans cette émission, n'appelez pas. Envoyez les notes vocales au 099-706-99-41. 099-706-99-41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Bien, comment lutter contre la variole des singes ou monkeypox? Docteur Maurice Pango, Chaco, épidémiologiste, est notre invité aujourd'hui. Donc, vous avez dit par rapport aux flambées, il faut tout simplement mettre en place un bon système de surveillance. Alors, comment c'est organisé ici chez nous? Vous avez dit que c'est à la base, tout doit commencer au niveau de la base.
Il y a la base, les niveaux périphériques. Le niveau intermédiaire et le niveau central qui doit communiquer. Par exemple, au niveau des CNS, nous avons des moyens de communication, des moyens de communication rapides.
Quels sont ces moyens? C'est quoi les CNS?
Le Service National d'Épidémiosurveillance.
D'accord.
Ouais. Et le système MI. MI, c'est un système où les informations sont transmises à la minute. Donc, par Android, par exemple, Donc, on envoie ces informations-là, de là jusqu'au niveau du service. Et les services se regroupent à d'autres services, comme Delma, comme Lutte contre les maladies, pour traiter ces cas-là et publier les résultats de ce travail-là. Mm. Et en plus, il y a aussi de revues hebdomadaires que nous publions au niveau des CNS. Pour toutes les maladies, les cas de flambées de maladies qu'on nous envoie des provinces au niveau de coordination provinciale. Donc les coordinations provinciales sont en contact permanent avec les services nationaux, la coordination nationale. En plus, notre coordination nationale traite aussi avec le ministère de la Santé dans le cadre de One Health, donc une santé. Il y a aussi des rencontres comme ça. Chaque semaine, chaque vendredi, il y a des réunions qui traitent de toutes les épidémies et notamment le monkeypox, pour que tout le service soit informé.
Il faut y avoir des réunions, les rapports partout à travers le pays pour savoir
Où
est-ce qu'il y a eu des cas.
Tout à fait.
Oui. Et vous avez dit, il faut directement isoler les malades. Dès qu'on constate qu'il y a un cas, il faut isoler le malade.
On commence par là. Il faut isoler le malade, l'amener dans un centre et le suivre. Suivre de près. Surveiller tous ces mouvements qui ne quittent pas le centre d'isolement pour sortir et se promener inutilement. On doit le suivre jusqu'à la guérison avant de le libérer. Voilà le point le plus important.
Et le traitement peut prendre combien de temps aux antibiotiques?
Bon, c'est une maladie aussi qui réagit le plus vite. Donc, en dehors une semaine, la personne peut déjà se rétablir.
Et tous les boutons là vont disparaître?
Les boutons vont disparaître en laissant des cicatrices.
Ah, ça laisse des cicatrices.
Ça laisse des cicatrices
sur la paume des mains, sur le visage,
sur la peau, ouais. Sur le corps.
Ouais. Et on ne peut plus enlever ça?
Ça part de soi.
Ok.
Ce sont des cicatrices qui disparaissent de soi. Ouais. Le corps, avec son système immunitaire, le repousse jusqu'à le faire disparaître.
Voilà. Mais est-ce que le malade peut faire une rechute?
Oui. Lorsque il y a une augmentation des agents infectieux, donc des microbes, dans les milieux où ils se trouvent, ils peuvent faire une rechute. Mais néanmoins, quand une personne a déjà souffert de ça, il acquiert une immunité qui le protège contre la maladie.
Mais il ne peut pas y avoir de surinfection.
Il est guéri. Mais s'il se trouve dans un milieu encore où il y a un bon nombre de malades, il tombe malade et puis il redevient malade.
Il redevient malade.
Oui.
D'accord, nous parlons aujourd'hui de cette maladie monkeypox ou variole de singe avec Dr Maurice Pango-Chaco, épidémiologiste. Vous avez des questions et préoccupations, eh bien, appelez au 099-706-9941, envoyez les notes vocales et nous allons les diffuser tout à l'heure. On va souffler un tout petit peu en musique et on se retrouve juste après.
Salima
Vous écoutez la radio Okapi, une voix pour tous, l'émission Okapi Service se poursuit. Aujourd'hui, nous parlons de cette maladie dénommée variole des singes ou monkeypox avec Dr Maurice Pango-Chaco et il est épidémiologiste. Docteur, je pense que vous avez dit l'essentiel, mais il est toujours important de rappeler un certain fait. Il y a par exemple quelques SMS des auditeurs. Voilà, dans cette émission, vous pouvez envoyer des messages audio ou bien des SMS ou nous écrire sur Facebook. Voici les numéros, c'est les 099-706-99-40-41. C'est le numéro par lequel vous pouvez envoyer les SMS ou des messages audio. Alors, nous avons... les messages de Gédéon Kalindera depuis Béni, il dit que peut être l'antibiotique de choix pour la prise en charge de cette pathologie. Docteur Maurice, qu'est-ce que vous pouvez dire à Gédéon qui veut connaître quel est l'antibiotique peut-être le plus approprié pour la prise en charge de cette de monkeypox?
Bon, il y a plusieurs types d'antibiotiques. Et les streptomycines, par exemple, qu'on peut utiliser l'antibiotique à large spectre. Donc, un antibiotique qui s'attaque à toutes sortes de germes. Ce sont ce type d'antibiotiques-là qu'on utilise. Donc, les streptomycines, chez les animaux, par exemple, on peut prendre la pénicilline, par exemple. Ce sont
Est-ce que c'est toujours utilisé la pénicilline jusqu'à aujourd'hui?
Oui, contre les problèmes de symptômes, les signes là,
oui.
Qu'on peut utiliser pour cicatriser ces plaies là afin d'éviter la surinfection. Afin d'éviter la surinfection, on peut utiliser ces antibiotiques là. Donc surtout les antibiotiques à large spectre. Mais cela dépend du médecin prescripteur. C'est lui qui constate les cas et qui a un antibiotique qui est plus efficace à prescrire au malade.
C'est le médecin qui prescrit, ce n'est pas vous-même, vous faites l'automédication,
non.
Vous allez prendre des produits.
C'est le médecin, absolument le médecin. Oui, dans le centre d'accueil d'isolement de malades, ce sont des médecins qui doivent travailler avec les infirmiers pour soigner les malades et non n'importe qui. Ou quelqu'un qui prend les antibiotiques à la maison, ou qui va voir un féticheur, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, un tradit praticien, qui dit qu'il faut prendre
des charlatans,
le faire de tel ou les écraser, le mouiller dans l'eau, et prendre les extraits pour laver le malade. Non, il faut absolument s'attaquer à la cause avec les antibiotiques à large spectre. Ok.
Voilà, donc ne faites pas de l'automédication. Il faut
ça, il faut exclure. Mm. Dans les zones où les gens ont fait les automédications, comme à Bongandanga, parce que c'était la zone là où j'étais,
oui.
Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Quand je suis arrivé là-bas, on commençait par les automédications et on finissait au centre quand c'était devenu grave.
Voilà, les gens viennent toujours au centre quand ça devient grave.
Ça devient grave.
Au début de la maladie.
Très, très grave. Au début, ils pensent à autre chose, la sorcellerie, les envoûtements. Alors que c'est une maladie à déclaration obligatoire qu'on doit diagnostiquer et déclarer. Voilà.
Et est-ce que les gens les déclarent facilement ou bien les malades sont encore stigmatisés dans la société ou Satan les garde à la maison, etc.
Effectivement, c'est le problème de la stigmatisation qui fait que les gens fuient d'abord, ils se cachent, ils vont chercher leur pétition du village et quand ça ne tient pas, ils reviennent le médecin. Ou c'est quand le recours ou les AXA se promènent dans le village, rencontre ces cas et conseille aux parents ou aux malades d'aller voir le médecin. Et c'est à ce moment-là que le parent ou le malade prend courage pour aller rencontrer le médecin. Sinon, il laisse et il souffre. Bon. Et il peut développer d'autres maladies qui n'est plus la variole des singes, qui peuvent l'amener à la mort. Mmh. Ouais, à cause de la surinfection.
Parce qu'il connaît pas la maladie, pour certains pensent que c'est de la sorcellerie, tout simplement.
Tout à fait.
D'où il est important qu'il y ait des relais communautaires dans tous ces villages-là.
Mmh. C'est aussi le cas qu'on devait aborder, la sensibilisation.
Sensibilisation, oui.
La communication des risques.
Comment est-ce qu'elle doit se faire?
Il faut communiquer, ces gens doivent aller de porte à porte, ils doivent organiser des réunions avec les leaders d'opinion du milieu pour leur parler de la maladie, définir la maladie, montrer comment la maladie se transmet, montrer les risques qui peut survenir à cause de cette maladie-là, et même les précautions à prendre. Et apprendre même l'hygiène pendant la période de la flambée, comment se protéger, comment se nettoyer. Hein, c'est un grand travail de RECO, des agents communautaires de santé animale et de RECO. Donc,
et il faut, dans un village par exemple, il faut combien de relais communautaires?
Bon, du côté, nous utilisons plus les AXA, les agents communautaires de santé animale.
Okay.
Donc nous avons dans chaque village, on peut prendre dans chaque village un AXA, ou on peut prendre dans 5-6 villages un AXA. Ça dépend du nombre d'AXA que vous avez, mais un seul peut couvrir 4 à 5 villages. Mmh. Un seul. Bon. Ce sont des gens qui travaillent bénévolement, qui ne sont pas payés,
mais qui sont formés, qui connaissent les maladies
et qui sont soutenus avec quelques kits, quelques moyens pour aller vers le malade et dénicher le malade et l'amener à la prise de conscience pour aller à l'hôpital et rencontrer le médecin.
On les appelle les AXA, les agents communautaires de santé animale.
Et
ils sont différents du RECO, les relais communautaires.
Ils ne sont pas différents, sauf que les relais communautaires sont orientés beaucoup plus pour les hommes, les humains, les hommes. Et les accents sont plus orientés sur les animaux. Parce que nous avons beaucoup de zoonoses, les maladies qui se transmettent.
C'est le transfert de l'animal à l'homme.
L'animal à l'homme. Et alors, les accents jouent ce rôle-là. Et d'ailleurs, actuellement, avec le système d'une santé, ils se mettent ensemble, ils font des réunions pour en parler.
Bien, je vais lire la question de Shadrach Mutuza, c'est que c'est à Chabunda, au sud Kivu. Il dit, comment les animaux attrapent cette maladie?
Ok, c'est une bonne question, comment les animaux attrapent cette maladie? J'ai dit d'abord, la cause principale est inconnue. Mais, un animal qui est déjà malade, à contact avec l'autre, transmet la maladie. Nous avons les contacts directs. Le contact direct entre un singe, par exemple, et un autre singe. Et le cadavre aussi de l'animal qui tombe et qu'il y a un autre animal qui passe par là. Un autre animal susceptible à présenter les signes de cette maladie-là. Mm. Comme les rongeurs, les chiens des prairies, comme on les appelle, les marmottes, ils souffrent de la maladie. Mm. Chez les animaux, c'est le contact direct. Et même
le porc-épic.
Le porc-épic aussi.
Oui.
Ouais. Donc c'est ça. Chez les animaux, c'est les contacts directs. Chez les humains, il y a aussi, il y a beaucoup de moyens de transmission de cette maladie-là, qu'on a cité précédemment là. Les contacts directs, le fait de dormir ensemble avec un malade, les rapports sexuels avec un malade, tout ça là sont des choses qui peuvent faire.
Il faut éviter. Le malade doit être isolé.
Isolé.
Pendant cette période-là.
Ouais.
Alors, il y a une autre question. Je suis au Kassai Central. Comment découvrir qu'une personne a cette maladie?
Comment découvrir? D'abord, la personne, vous allez voir qu'il y a des éruptions d'abord. Ça commence par les éruptions. Ces éruptions-là, qu'on appelle des vésicules ou des papules ou des macules, comme on les appelle, qui apparaissent sur le corps de la personne. Et la personne devient inquiète. La fièvre monte.
Mmh. Ouais. Elle peut monter jusqu'à combien?
La fièvre va au-delà de 38 degrés Celsius. Donc la fièvre monte au-delà de 38 degrés Celsius.
38 degrés.
Et aujourd'hui, vous avez la fièvre. Le soir, la fièvre est au-delà de 38 degrés Celsius.
Demain, elle ne baisse toujours pas.
Elle ne baisse pas. Avec des éruptions cutanées, là, carrément,
des plaies dans la bouche.
Oui, il faut suspecter la peur. À commencer par ça. À commencer par les éruptions d'abord.
D'accord.
La plaie dans la bouche, il faut déjà suspecter la personne. Il faut déjà se mettre loin de la personne. Et signaler, le RECO ou au centre de santé pour suivre la personne.
Mmh.
Ouais.
Bien,
et je voulais dire que plus particulièrement, quand on te remarque qu'il a, ça apparaît au niveau des paumes de main, des plantes des pieds, là, directement, il faut penser à la variole simienne ou bien la monkeypox ou bien la variole des singes.
Mmh. Et ouais. Il faut directement aller signaler au centre de santé le plus proche.
Il faut signaler au centre de santé le plus proche.
D'accord. Signaler ou amener directement le malade là-bas?
Il faut commencer par signaler.
Signaler d'abord.
La personne peut refuser si c'est une personne adulte.
Oui.
Elle peut refuser ou c'est un enfant. Il faut convaincre le parent de la personne, de l'enfant pour qu'on amène l'enfant à l'hôpital.
Ouais. D'accord. Une dernière question, docteur, qui vient de Domi Munganga. Bon, on l'a déjà posé, il est au Kassai. Il dit, est-ce qu'une personne guérie peut faire une rechute?
On a parlé de cette question-là.
Oui.
Donc, une personne guérie établit donc dans son corps une immunité. Une forte immunité le protégeant contre la maladie. Mais même si la personne a une immunité et qu'il se retrouve dans un milieu où beaucoup de personnes souffrent de la maladie.
Oui.
Il peut manifester la maladie.
Encore une fois.
Il peut avoir chute de son immunité. Mais néanmoins, celui qui a déjà fait la maladie a l'immunité, le protégeant contre la maladie.
Est-ce qu'il y a peut-être des types d'aliments à prendre pour se protéger contre cette maladie-là?
Type d'aliments.
Pour renforcer son système immunitaire.
Oui, les aliments riches en protéines. Il faut les prendre, les aliments riches en protéines, les fruits, les légumes. Il faut prendre il y a aussi un problème de diarrhée. Ça peut créer la diarrhée. Il faut prendre beaucoup de fruits pour avoir beaucoup plus d'énergie et conserver l'eau dans le corps pour ne pas faire la diarrhée.
Bien, docteur Maurice Pango-Chaco, épidémiologiste, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de la variole des singes, ou monkeypox.
Ouais.
Excellente journée et à la prochaine.
Ok, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Tati Mafuko a assuré la coordination et la réalisation de cette émission. Alain Goy à la mise en onde. Jody Daniel au micro. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.